fera pas d'études supérieures. Donc voilà, c'est très décourageant. Et donc en parallèle, on a commencé à regarder quand même la GPA.
Florian, je vous interromps un instant parce que c'est l'heure du flash.
D'accord.
Et puis on se reparle dans quelques instants.
Tout à fait.
À tout de suite.
À tout de suite.
Au carillon d'Europe 1, il est minuit et c'est donc Maëlle Hassani qu'on retrouve pour les informations. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Un accident de la route impliquant Bruno Le Maire dans le 6e arrondissement de Paris ce vendredi soir. Information confirmée par une source policière à Europe 1. Le ministre de l'économie conduisait sa voiture personnelle quand il a heurté un cycliste qui aurait grillé un feu rouge. La victime a été transportée en urgence relative. Il pourrait souffrir d'un traumatisme crânien. Bruno Le Maire a été contrôlé négatif à l'alcool. Une semaine après avoir reçu une proposition de trêve, la direction du Hamas est attendue au Caire ce samedi. Les discussions vont se poursuivre. Le mouvement terroriste dit être dans un esprit positif pour parvenir à un accord. Israël propose 40 jours d'arrêt des combats en échange de la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Mais le Hamas réclame toujours le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Dans le même temps, le mouvement terroriste accuse le Premier ministre israélien de saper les négociations sur cette trêve. Les déclarations de Benjamin Netanyahou sur une offensive à Rafah sont notamment pointés du doigt. Il avait assuré que cette offensive sur la ville du sud de Gaza serait lancée, qu'un accord de trêve soit signé ou non. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, fait part de sa désolation sur Europe 1. Selon lui, les radicaux ont gagné dans les universités françaises. Plusieurs campus occupés une nouvelle fois ce vendredi par des militants pro-Gaza, notamment Sciences Po Paris. Les forces de l'ordre ont évacué les 91 étudiants présents dans les principaux bâtiments de l'école. D'autres mobilisations pro-Gaza ailleurs en France, sur les campus de Sciences Po au Havre, à Dijon, Reims et Poitiers. À Lyon, les forces de l'ordre ont pu évacuer les militants présents dans l'IEP, mais l'établissement restera fermé jusqu'au 12 mai prochain. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, appelle tous ceux qui le peuvent à rejoindre ces blocages. Un homme mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat est placé en détention provisoire. 48 heures après avoir foncé en voiture sur un groupe à la sortie d'une boîte de nuit à Toulon, une personne est décédée, deux autres sont blessés. Le suspect, âgé de 20 ans, aurait eu une altercation dans la discothèque avant les faits. Assouplissement de la loi SRU sur les quotas de logements sociaux, durcissement des conditions pour rester dans un HLM et simplification des démarches pour construire des habitations. Autant de mesures qui figurent dans le projet de loi pour développer l'offre de logements abordables présenté en Conseil des ministres ce vendredi. C'est une première dans l'histoire. La France sera représentée lors d'une cérémonie de commémoration de la bataille de Dien Bien Phu. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sera présent au Vietnam mardi prochain à l'occasion des 70 ans de cette défaite cuisante des troupes françaises lors de la guerre d'Indochine qui a mené à l'émergence d'une nation vietnamienne indépendante. En football, Lorient se rapproche un peu plus de la relégation. Les Merlus se sont inclinés 2-0 lors de la 32e journée de Ligue 1 de football contre Lens. Montpellier, en revanche, se maintient officiellement après sa victoire de 2-1 contre Toulouse. Et puis les sélectionneurs vont pouvoir choisir 26 joueurs pour composer leur équipe lors du prochain Euro en Allemagne cet été. L'UEFA vient d'acter cette réforme contre l'avis de la Fédération française de football. Jusque-là, seuls 23 joueurs pouvaient être conviés pour la compétition. Vous écoutez Europe 1, il est minuit 3. La suite de la libre antenne du week-end, c'est avec Valérie Darmon jusqu'à 1h.
Merci Maël, je vous souhaite un beau week-end et
merci.
On se dit à vendredi prochain.
Avec plaisir, à vendredi.
Au revoir.
Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Merci de nous rejoindre dans la libre antenne d'Europe 1 et de composer, si vous le souhaitez, le 01 80 20 39 21. Vous pouvez aussi nous laisser un SMS au 7 39 21. Florian, on était en train d'évoquer votre choix de la GPA au Canada, une GPA éthique. Vous nous disiez que vous aviez abandonné avec votre conjoint la piste de l'adoption en France. Il restait aussi la piste de la coparentalité. Vous l'avez envisagé ou pas ?
Alors on l'a envisagé, on s'est posé la question et c'était pas notre projet. On respecte tout à fait les gens qui ont ce projet et qui ont des enfants par coparentalité, mais nous, on voulait pas partager notre enfant et on voulait vraiment construire notre famille en tant que couple avec un enfant et peut-être plus tard un second enfant.
Alors, le Canada, vous l'avez choisi parce que c'était éthique, justement?
Exactement. On s'est beaucoup renseigné. On a discuté avec des agences qui nous aident, en fait, en tant que parents. On appelle ça des parents d'intention, un couple qui veut avoir un enfant par GPA. Et donc, il y a des agences au Canada et aux États-Unis, d'ailleurs aussi, qui accompagnent les parents pour rencontrer une donneuse d'ovocytes pour fabriquer un embryon. Et puis, quand on a un embryon, trouver une mère porteuse pour porter cet embryon. Et on a discuté avec plusieurs agences et on a eu un bon ressenti avec une agence en particulier qui a commencé à nous aider, qui nous a présenté, qui nous a demandé de constituer un dossier en fait pour nous présenter nous notre projet, qui nous étions, pourquoi est-ce que nous avions envie d'avoir un enfant, etc., etc. avec des photos de notre vie, de nos familles, de nos proches. Et ce dossier en fait est proposé par l'agence à des femmes qui sont prêtes à faire un don d'ovocytes comme en France, on peut faire un don d'ovocytes ou un don de sperme. Au Canada, c'est le cas aussi. Et parmi ces femmes, il y en a une qui a été touchée par notre histoire et qui a accepté de donner ses ovocytes. Donc, on nous l'a présentée et on est presque tombé amoureux d'elle. C'est une femme qui est très généreuse, qui est active dans plusieurs associations. Son travail, c'est d'accompagner des enfants en situation de handicap. Donc, c'est quelqu'un qui nous a convenu en termes de valeurs. Et on s'était dit qu'on serait très fiers de raconter à notre enfant qui est sa mère biologique, puisque la mère biologique, c'est celle qui donne l'ADN, donc c'est la donneuse d'ovocytes. Et que c'est elle qui nous a aidés à devenir parents, parce que c'est quelqu'un qui, tout simplement, aide son prochain.
Et la donneuse, c'est pas la porteuse?
Tout à fait. Donc là, il y a cette première femme qui est une donneuse d'ovocytes qui nous a expliqué que elle, ses motivations, c'était qu'elle a grandi dans une famille avec beaucoup d'amour, qu'elle estime avoir eu beaucoup de chance de grandir dans cette famille avec des parents très aimants, une fratrie très aimante, et qu'elle a envie d'offrir cette chance à un autre enfant. Et évidemment, dans le cas d'une GPA, elle prend pas vraiment de risque parce que le parcours est tellement long, compliqué, qu'on fait pas un enfant par hasard dans le cas d'une GPA. Donc, quelque part, c'était un moyen aussi pour elle de s'assurer qu'elle allait donner un ovocyte pour aider à concevoir un enfant dans une famille avec un vrai désir d'être parent et qui a de l'amour à offrir et qui fera tout son possible pour être de bons parents.
Et qui a réfléchi sur la parentalité, justement.
Oui, qui a réfléchi sur... Exactement, voilà. qui a vraiment pris cette décision.
En conscience.
Il n'y a pas d'accident dans le cas d'une GPA. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que vous savez, en France, le don de sperme est anonyme et il peut y avoir une levée de l'anonymat à 18 ans. Au Canada, c'est au choix de la donneuse d'ovocytes et des parents de décider si la donation est anonyme ou connue. Et pour nous, c'était important que la donation soit connue parce qu'on voulait que l'histoire soit très claire, très complète pour notre fils, qu'il n'y ait pas de mystère, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de secret. Et donc, il sait parfaitement qui est cette jeune femme. On l'a rencontrée, donc on a des photos avec elle. Avec notre bébé dans ses bras et cette rencontre était évidemment très émouvante et cette jeune femme n'a rien touché, elle n'a pas touché d'argent, c'est comme le don de sang, comme le don de sperme, complètement gratuit.
Et la donneuse et la porteuse, est-ce qu'elles se connaissent?
Non, elles ne se connaissent pas, elles n'habitent pas dans la même ville d'ailleurs, elles pourraient se connaître, on n'a pas d'obstacle à ça, mais ça ne s'est pas fait parce que physiquement elles n'habitaient pas à proximité et on ne les a pas rencontrées en même temps. Mais ça pourrait, oui.
En tout cas, vous avez évoqué quelque chose de très important, Florian, c'est-à-dire le secret de famille. Vous ne voulez pas que votre enfant ou vos enfants futurs ne sachent pas d'où ils viennent, en fait. Hein. Et ça, c'est primordial parce que c'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui pour tous ces enfants là, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que ça va donner, finalement, hein, dans l'avenir? Et dire, c'est quand même fondamental.
Oui, c'était très, très important pour nous. C'est évidemment pour ça qu'on a choisi une donation connue et tout au long du parcours, en fait, on a documenté notre parcours. C'est-à-dire que, en fait, je tenais un journal et ce journal, je l'ai ensuite mis en page avec des photos, avec les photos de notre vie quotidienne et les photos des interactions qu'on avait avec notre donneuse d'ovocytes, puis ensuite notre mère porteuse. Et donc, en fait, à sa naissance, on a imprimé un livre qui raconte totalement l'histoire de notre fils. Sans tabou, mais avec des mots d'enfant aussi pour qu'ils puissent comprendre, mais en appelant les choses par leur nom. Une jeune femme qui a donné un petit œuf, et puis ensuite ça, un papa a donné une graine, et ça a fabriqué un petit bébé. Ce petit bébé qui doit être mis dans le ventre d'une femme, y a une autre femme qui a accepté de le prendre dans son ventre pour le faire grandir. Et voilà, tout ça est très clair. On a des photos de ces deux femmes avec notre fils dans sa chambre, à côté des photos avec ses grands-parents, avec son parrain, sa marraine, avec nous-mêmes, etc. Donc c'est totalement ouvert, et il nous pose des questions parfois et on lui explique, et c'est très clair pour lui. Et
il a quel âge,
Il a 2 ans et demi.
2 ans et demi.
Il a 2 ans et demi, oui.
Et la donneuse, vous savez combien elle a déjà donné d'ovocytes ou pas?
Alors oui, elle a donné une seconde fois après nous, et ce qui est intéressant, c'est que l'agence nous le dit, en fait, elle-même nous l'a dit aussi, et on est en contact avec un autre papa qui est un père célibataire, et donc notre fils a une demi-sœur biologique, assez loin, pas en France, mais et on est en contact aussi. Alors c'est amusant, mais finalement ils habitent loin et nos vies sont très différentes, donc on peut pas dire qu'on est amis et on les a jamais rencontrés, mais c'est intéressant de le savoir. Et puis si un jour ils ont envie de se rencontrer, ils se rencontreront. Tout comme notre fils, s'il a envie de contacter sa mère biologique, sa donneuse d'ovocytes, enfin notre donneuse d'ovocytes, il a accès à son contact, il sait comment elle s'appelle, il sait où elle habite, on a son numéro de téléphone. On échange encore aujourd'hui par message pour envoyer des photos de notre fils aux événements importants de sa vie, les anniversaires, la première fois qu'il a fait du vélo, etc., etc. Et donc tout ça est très très transparent, très oui, très
tout
visible.
Tout est ouvert en fait.
Il a, oui, tout à fait.
Et sa demi-sœur, elle habite dans quel pays?
Elle habite à Hong Kong. À Hong Kong. Donc c'est un peu loin.
Oui, c'est ça. Donc et alors donc la porteuse, même chose, toujours en contact,
oui,
avec elle.
Tout à fait. Donc la porteuse, c'est une fois qu'on a un embryon, en fait, on a un dossier qui est présenté à plusieurs femmes, et une de ces femmes a dit il me touche, j'ai envie de porter un enfant pour eux. Et donc cette femme, elle a 31 ans, elle a 2 enfants, elle a eu 2 grossesses qui se sont bien passées. Elle nous dit qu'elle aime être enceinte, mais qu'elle veut plus d'enfants. Et elle a envie de nous aider parce qu'elle est sensible au fait que les couples homoparentaux en particulier ne peuvent pas avoir d'enfants de manière naturelle, pas tout seul en tout cas. Et elle trouve dommage de ne pas pouvoir devenir parent parce qu'elle-même, elle adore être mère. C'est une famille très équilibrée, et c'est un projet de couple d'ailleurs avec son mari, que d'aider un autre couple à devenir parent. Et donc elle veut permettre à un couple de connaître ce bonheur de la parentalité. Et alors on se rencontre par visio à l'époque, puisque déjà c'est au Canada, c'est un peu loin, et puis en plus c'était pendant le Covid, donc les frontières étaient fermées. Et ce qui est très frappant pour nous, c'est que en fait elle nous parle de notre bébé, donc elle dit votre bébé, je veux bien accueillir votre bébé, etc. Donc c'est très clair pour elle que c'est pas son enfant, que cet enfant il est déjà conçu, puisqu'il c'est déjà un embryon, et qu'il a une mère biologique, la donneuse d'ovocytes, un père biologique qui est le papa qui a donné ses gamètes, et qu'elle va vivre une grossesse, mais elle le dit, et c'est très clair pour elle que c'est pas son bébé. Donc c'est pour ça que ce qui est très gênant quand on entend dans les discours aujourd'hui parler de mères porteuses qui abandonnent leur enfant, ou voir dans les discours les plus ignorants ou les plus haineux, en tout cas de femmes qui vendent leur bébé, c'est pas du tout la perception de la mère porteuse, et pourtant c'est ça qui compte. On les entend pas du tout aujourd'hui, les mères porteuses, dans le débat public, parce qu'il y en a pas en France, a fortiori parce que la GPA est interdite. Et c'est important, je pense, de rappeler leur perception, qui est que elles vont prendre soin d'un bébé pendant 9 mois. Ce bébé, il existe avant elles le portent. Et à la naissance, oui,
elles prêtent leur corps.
Tout à fait, elles prêtent leur corps pour faire grandir ce bébé. C'est notre mère porteuse se disait presque nounou en fait de ce bébé.
Ce sont les femmes en plus qui choisissent alors les parents au Canada, parce qu'aux États-Unis, ce sont souvent les futurs parents qui choisissent la donneuse, souvent sur catalogue d'une certaine manière, et la porteuse d'ailleurs. Et ensuite, ils les rencontrent en vidéo souvent.
Oui, alors il faut quand même qu'il y ait un accord des deux côtés. Hein. Aux États-Unis aussi, les donneuses d'ovocytes et les mères porteuses, pareil, hein, reçoivent un dossier. Enfin, en tout cas, sont au courant des parents. Voilà, elles connaissent l'histoire des parents, qui sont-ils, etc. Et elles peuvent tout à fait refuser de évidemment donner leurs ovocytes ou porter un enfant pour un couple. qu'elles ne sentiraient pas ou pour lequel elles n'ont pas d'affection particulière, etc. Ça, c'est comme au Canada.
Alors, on a Christine au 739-21 qui nous dit « Quid de la souffrance du bébé qui vient de naître et qui est enlevé à sa maman ?»
Alors, je viens de parler du fait que pour la mère porteuse, ce n'est pas sa maman. Alors, effectivement, il a grandi dans son ventre.
Elle le met entre guillemets, d'ailleurs.
Hein, oui. Et sa maman, c'est plutôt sa maman biologique au sens de l'ADN. C'est la donneuse d'ovocytes. Donc, on peut se poser la question aussi du lien qu'il a avec sa mère biologique. Et j'en ai un petit peu parlé. L'arrachement, comme on peut entendre parfois, d'un bébé à sa mère, mais du coup, je viens d'expliquer que ce n'était pas vraiment sa mère. On a réfléchi aussi.
Ce qu'elle veut peut-être dire, c'est par rapport au féminin, quoi. Enfin, voilà, ce qu'on peut imaginer
bien sûr,
féminin quand on met un enfant au monde.
Bon. Tout à fait. Alors nous, on est resté en contact avec la mère porteuse. On est présent à l'accouchement, évidemment. Et puis, au bout de 20 minutes que l'enfant est né, on a laissé quand même à notre mère porteuse se reposer parce que c'était une grossesse facile, mais l'accouchement était un peu rapide, mais un peu, je vais pas dire pénible. Je pense en fait comme tout accouchement.
Fatigant.
Donc fatigant, voilà. Moi-même, je n'ai jamais eu cette expérience, mais un peu fatigant. Donc on l'a laissé un petit peu se reposer et en fait très vite elle nous a appelé pour dire est-ce que je peux le voir. Donc évidemment on est venu dans sa chambre avec le bébé. Et elle a vu à quel point on était ému, on pleurait, et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Mais je vois vos sourires, et c'est pour ça que je le fais. » Et ça nous a énormément touchés. On l'a remercié, on lui a dit qu'on était reconnaissant à vie, que elle nous avait permis de devenir parents, et c'était très touchant. Et par la suite, on est resté encore un mois au Canada. Et pendant ce mois, on s'est vu régulièrement. Elle est venue chez nous avec son mari, avec ses enfants, pour que ses enfants aussi comprennent bien pourquoi il y avait un bébé. Ils étaient un peu plus âgés, mais ça montrait aussi à ses enfants que le bébé qui était dans son ventre, eh ben, il était maintenant avec deux papas, qui étaient des papas qui avaient envie d'avoir un bébé, qui ne pouvaient pas avoir un bébé tout seul et que leur maman leur avait permis de devenir parents.
Et est-ce qu'elle est prête à porter un autre de vos enfants ?
Alors, en fait, elle a déjà deux enfants de son côté, enfin, deux enfants avec son mari. Elle a fait une grossesse par GPA. Elle nous a dit ensuite que voilà, elle avait fait sa part, elle avait aidé un couple. Maintenant, elle laissait de la place à d'autres femmes pour aider d'autres couples.
Ah oui, donc si vous voulez faire un autre enfant, vous allez passer par une autre porteuse.
Exactement, il faudra qu'on rencontre aussi une autre porteuse et il faudra que une femme trouve notre histoire suffisamment touchante pour nous aider. Et c'est plus compliqué, ce qu'on nous a expliqué, c'est plus compliqué parce que comme on a déjà un enfant et que les femmes qui font ça le font, en tout cas au Canada, pour aider des gens à devenir parents, eh ben c'est moins facile pour nous parce que nous sommes déjà parents. Donc on sera moins...
Vous ne serez pas prioritaire.
On ne sera pas prioritaire en quelque sorte. Les mères porteuses vont plutôt privilégier un couple qui n'a pas d'enfant, soit parce que c'est un couple homosexuel et qu'ils ne peuvent pas physiquement, ou parce que c'est un couple hétérosexuel qui a des soucis de fertilité. D'ailleurs, la GPA, en majorité, ce sont des couples hétérosexuels qui ont des difficultés avec la fertilité qui font appel à la GPA.
Oui, je posais cette question parce que Marc-Olivier Fogiel, qui a beaucoup médiatisé aussi sa famille, ils ont choisi la même porteuse avec son mari, pour que les filles soient sœurs, en fait.
Sœurs, étant donné qu'elles n'ont pas de lien, alors elles sont sœurs par leurs deux parents qui les élèvent, et puis elles sont sœurs biologiques si c'est le même donneur de sperme et la même donneuse d'ovocytes. Est-ce qu'on peut parler de sœurs si elles ont grandi pendant 9 mois avec la même mère porteuse? C'est une définition de sœur qui est propre à chaque famille, en fait.
Ça redéfinit tout, en fait, hein, c'est ça.
Oui, mais elles sont sœurs parce qu'elles grandissent ensemble.
Voilà, c'est ça.
Et c'est exactement ce qu'on a expliqué à notre enfant. Alors, il est un peu jeune pour le comprendre, peut-être, mais c'est ce qu'on a. On l'a écrit comme ça dans le livre. On s'est vraiment interrogé sur la définition de parents. Et dans le dictionnaire, dit que les parents, ce sont des personnes qui élèvent un enfant.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire pour les parents adoptifs. Voilà. Ce sont les parents qui élèvent l'enfant qui sont les vrais parents, évidemment.
Exactement. Et par contre, il y a une autre définition de parents biologiques qui sont l'homme et la femme qui physiquement ont confié chacun des gamètes mâles et des gamètes femelles.
Ils sont géniteurs et génitrices, peut-être.
Exactement. Et que certains appellent papa biologique ou mère biologique ou père biologique. Et on a dit, on explique à notre enfant que c'est lui qui décidera de s'il considère que notre donneuse d'ovocytes est sa mère biologique ou s'il considère aussi que la femme qu'il a portée pendant 9 mois, il peut l'appeler, il peut dire que c'est sa maman s'il en a envie. Ce sera lui de décider, c'est son histoire. C'est à lui de le décider.
Oui. Et puis après tout, il a deux papas, il peut avoir deux mamans.
Tout à fait, ouais.
De toute façon. Alors on a exactement, Cathy ouais. au 739-21 qui dit « Ce monsieur semble très équilibré, surprenant que tout soit gratuit. Ces agences seraient-elles bénévoles ?»
Non, pas du tout. Les agences ne sont pas bénévoles, tout n'est pas gratuit. Les agences facturent la mise en relation avec entre les parents d'intention, la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse, parce qu'elles organisent aussi la mise en relation avec des avocats, avec les cliniques. Nous, on ne connaît rien du Canada. Quand on est en France, on n'a aucun contact avec aucun avocat, on n'a aucun contact avec une clinique, on ne connaît pas de gynéco, on ne connaît pas de pédiatre. Donc, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, on a besoin de quelqu'un qui connaît, qui est capable de nous mettre en relation avec les bonnes personnes pour organiser finalement tout notre parcours, tout notre projet. Et c'est quelqu'un aussi qui va gérer le billet d'avion parce que notre donneuse d'ovocytes n'a pas de clinique dans sa ville, donc il faut qu'elle prenne un avion pour aller dans une autre ville, une autre grande ville dans laquelle il y a une clinique. C'est lui qui va prendre les billets d'avion. Et alors c'est pas totalement gratuit parce qu'on doit quand même indemniser les frais qui sont liés à la grossesse. Typiquement, notre donneuse d'ovocytes a pris l'avion. Elle n'est pas payée, mais on ne va pas non plus lui demander de payer pour nous, parce que ce n'est pas pour son enfant. Donc c'est comme le don de sperme en France, d'ailleurs. Si vous avez un déplacement à faire pour votre don de sperme, le billet de train vous est remboursé. Là, c'est pareil. Donc typiquement, on a payé le billet d'avion et la nuit d'hôtel de notre donneuse d'ovocytes. Et tous ces cas de remboursement sont prévus par la loi. Donc il y a une liste, en fait, dans la loi au Canada, qui prévoit tous les éléments, tous les services en fait qu'une mère porteuse et une donneuse d'ovocytes peuvent se faire rembourser parce que ce sont liés à des frais de grossesse. Par exemple, les vêtements de grossesse, c'est pareil. La donneuse d'ovocytes, comme la mère porteuse, elles sont pas payées, mais la mère porteuse, elle va devoir acheter des vêtements de grossesse. Ça peut coûter, ça peut représenter un certain budget. Elle gagne pas d'argent, mais on va pas non plus lui demander d'en dépenser. Donc concrètement, elle achète des vêtements de grossesse. Elle doit garder son ticket de caisse qu'elle confie à l'agence. Et l'agence nous dit, votre mère porteuse a dépensé 200 euros dans des vêtements de grossesse. Vous devrez lui rembourser 200 euros. Mais c'est très encadré. C'est pour ça que c'est dit éthique. C'est que c'est encadré par la loi. On peut pas lui offrir une voiture. On peut évidemment pas lui faire de virement bancaire sur son compte. Elle peut pas s'acheter une maison. Elle peut pas s'acheter un chien. Elle peut pas aller faire des manucures. Voilà, toutes les dépenses sont très, très encadrées.
Très encadrées. Alors, on a Véronique au 739-21 qui nous dit « Cette GPA au Canada est tout de même une sélection par l'argent. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir même 100 000 euros pour une GPA. »
C'est tout à fait vrai et c'est vraiment dommage. C'est une vraie sélection par l'argent. Il y a beaucoup de couples modestes qui s'endettent et qui sont tout aussi légitimes que n'importe quel autre couple pour devenir parents, qui n'ont pas accès à la parentalité parce que on est obligé d'aller à l'étranger et si on veut une GPA éthique, c'est le Canada, les États-Unis et ça coûte très cher. C'est pour ça que avoir une GPA encadrée, telle que je l'ai décrite, éthique, encadrée sans rémunération, sans exploitation des femmes, parce que au Canada c'est pareil, on n'exploite personne. Les femmes qui sont ou donneuses ou mères porteuses, comme nous d'ailleurs, comme les parents d'intention, font l'objet d'une évaluation psychologique. Elles ont un suivi d'une assistante sociale qui s'assure que elles ne vivent pas dans le besoin, qu'elles ont un foyer qui est prêt à accueillir une grossesse, que leur environnement familial, amical, professionnel est compatible avec une grossesse, etc. Donc, si on avait ces mêmes mesures en France, on serait capable de faire une GPA éthique pour des couples français avec une prise en charge, peut-être partielle, mais à minima une prise en charge des frais de santé, type gynécologue, fécondation, comme c'est le cas pour des couples infertiles ou pour des PMA, par exemple, en France.
Et la porteuse, au Canada, il faut qu'elle ait déjà des enfants, hein, il me semble.
Exactement, ouais, c'est obligatoire qu'elle ait à minima un enfant pour être mère porteuse. C'est pareil, c'est dans la loi, ça aussi.
On a Annie au 739-21 qui nous dit « N'y a-t-il pas une souffrance de l'enfant quand il est séparé à la naissance de la personne qu'il a portée pendant 9 mois ?»
Alors, c'est la même question du coup que tout à l'heure. Nous, on n'a pas senti cette souffrance. Notre enfant, il a vu un pédiatre quand on était au Canada. il n'y a pas eu de signe de détresse. Il dormait très bien, il mangeait très bien. Aujourd'hui, notre enfant, il est très équilibré. Il est, alors forcément, c'est mon enfant, c'est le plus beau du monde, c'est le plus intelligent, etc. Mais il est à la crèche, il n'a pas du tout de problème de développement. Il dort très bien, il est en parfaite santé. C'est un enfant qui est très joyeux, comme beaucoup d'enfants.
Aimé,
ça fait très
désiré,
entouré,
aimé.
Très aimé, avec ouais. Nos deux familles qui sont.
C'était ma
qui
question.
Nous ont soutenus.
Voilà. Ouais, comment ça s'est passé avec les familles respectives au départ?
Je pense que personne savait trop, un peu comme nous, ce que c'était qu'une GPA, comment ça pouvait être, quels étaient les contours d'une GPA éthique. Et puis, quand on en a parlé, quand on a commencé à expliquer, on n'a eu que du soutien. Et à la naissance de notre fils, ça n'a pas fait de différence avec mes neveux ou nièces qui sont nés de manière naturelle dans des couples hétérosexuels. Et voilà, mais mon fils est adoré. Ma maman s'en occupe beaucoup. Donc, il a une présence féminine par ma maman. Ma sœur et sa marraine, on habite à côté. Elles le voient aussi beaucoup. On a des amis. Il a une vie tout à fait normale et tout va très bien pour lui. Il a beaucoup d'amour, il est très entouré et tout va très bien.
Alors, il n'y en a qu'un des deux qui est papa, je veux dire, génétique.
Oui,
forcément.
Oui, tout à fait. Oui,
donc, il va y avoir un deuxième bébé avec le deuxième sperme, les deuxièmes gamètes ou pas?
Oui, c'est notre projet.
D'accord, pour que tous les deux vous ayez biologiquement, en tout cas génétiquement, fait un bébé en fait.
Tout à fait, même si, alors l'idée c'était pour apporter une forme d'équilibre, même si dans les faits, notre fils ne fait pas de différence évidemment entre ces deux papas, et nous-mêmes on n'a pas de rapport différent avec notre enfant, parce que l'un est géniteur et pas l'autre, on se lève tous les deux la nuit, on donne les repas tous les deux, on change les couches tous les deux, on a la même dose de câlins, on a la même dose de bisous, et la même dose de tracas et d'inquiétude quand il est malade, etc., etc.
Alors, je pose la question de Guy, du 89, au 739-21, mais question que je ne comprends pas, en fait. Alors, je la pose parce qu'il l'a envoyé trois fois. Guy qui nous écoute et qui dit: quel ADN sera attribué aux enfants issus de la GPA?
Eh bien, l'ADN du père biologique qui a donné son sperme et de la donneuse d'ovocytes. Voilà. Il n'y a pas d'ADN en commun avec la mère porteuse. Elle n'a aucun lien biologique avec l'enfant.
Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi simple que ça, en fait.
Oui, tout à fait.
Bah écoutez, merci beaucoup Florian d'avoir témoigné ce soir dans la Libre Antenne d'Europe 1. C'était très intéressant de connaître le parcours et surtout la GPA éthique, parce qu'on peut pas imaginer qu'elles ne touchent rien finalement, ces femmes, et elles le font vraiment par amour.
Par amour, par altruisme.
Il y a de l'amour partout dans tout ce que vous nous racontez ce soir.
Exactement, c'est une très belle histoire, honnêtement. C'est pour ça que c'est très blessant quand on voit aujourd'hui des gens parler de la GPA comme d'un crime, comme de choses horribles, alors que notre histoire, et c'est ce que je viens de vous raconter, c'est de la bienveillance, de l'amour de toutes les parties prenantes. Et c'est une très belle histoire. Ouais. C'est dommage de devoir entendre des gens penser le contraire ou dire qu'ils connaissent mieux que les autres alors qu'ils n'ont jamais probablement parlé à une mère porteuse, ni même peut-être à des parents d'intention. Et ces gens-là devraient se renseigner. J'espère qu'ils nous écoutent et qu'ils y réfléchiront.
Ils vont réfléchir, voilà. Ouais, surtout quand on voit combien il y a d'enfants qui sont malheureux, issus de parents...
Hétérosexuel, avec une fécondation classique.
Voilà,
exactement. Ça ne veut rien dire.
Donc
en fait,
ça veut strictement rien dire. Hein. C'est Ama, la sage indienne, la gourou indienne que je cite souvent, qui dit ma religion, c'est l'amour. Et on a la sensation quand on vous écoute que c'est vraiment ça, en fait. Qu'on baigne dans l'amour. Écoutez, merci d'avoir transmis ce message ce soir sur l'antenne d'Europa. Un grand merci.
Merci
Florian.
De m'avoir écouté.
Et puis, belle continuation.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir Valérie.
Au revoir.
vieilles inconnues et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho.
Bésame mucho, Dalida, ce soir dans la libre antenne d'Europe 1. Dalida décédée le 3 mai 1987 et Pascal Praud en a longuement parlé ce midi sur notre antenne sur Europe 1.
En toute confiance, appelez maintenant Valérie Darmon au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Et notez que Laurie Choleva présente Clap tous les samedis de 19h à 20h, l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs d'Europe 1. Laurie, qui en compagnie d'invités exceptionnels, passe en revue toute l'actualité ciné de la semaine. Et ce samedi, elle reçoit Max Boublil à l'affiche du film Neuilly-Poissy, en salle donc mercredi prochain, et Emmanuel Berco pour le film L'Esprit Coubertin, en salle également mercredi prochain. Ça va se passer donc ce samedi de 19h à 20h, c'est-à-dire aujourd'hui, puisqu'il est 0h32. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est un grand honneur que vous me faites de passer à l'antenne. Je vous remercie sincèrement.
Avec grand plaisir. De quoi vous voulez nous parler ce soir, Elisabeth ?
D'abord, je tenais à vous remercier pour le petit clin d'œil de Dalida qui nous a quittés il y a une trentaine d'années. Et elle est dans les étoiles au-dessus de la rue des Cévennes à Paris et au-dessus de Paris et au-dessus de Montpellier. Elle est dans les étoiles et elle voyage.
Et oui, et c'est un monument. Ensuite, et je suis une fan absolue de Dalida. Voilà. C'est la chanteuse qui me remonte toujours le moral. Voilà.
Ah ben ça va alors, elle vous enchante. Alors.
Exactement, je ne suis pas la seule. Hein. Voilà.
C'est vrai qu'elle avait un certain charisme.
Alors.
Bon, je voulais féliciter et je suis très, 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 très contente pour Florian et son compagnon. C'est extraordinaire ce qui leur est arrivé. Je trouve ça très bien. Et à quand la GPA en France ? Voilà.
Bah, c'est une question qui est.
Pour les couples homosexuels ou alors hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. À quand cette loi établie par. Un gouvernement futur.
Alors, Elisabeth, voilà. On se parle de quoi ce soir ? Dites-nous
alors,
tout.
Ce soir, j'ai un sujet tout à fait qui revient pour moi depuis l'âge de 18 ans, parce que je suis une grosse fumeuse depuis l'âge de 18-20 ans. Et là, j'ai 62 ans et j'ai décidé le 23 avril à 4h20, parce que c'est l'heure où ma fille est née, à 4h20 de mettre le patch nicotinique pour arrêter le tabac.
Ce 23 avril, donc, là, il n'y a pas...
Là, 24, là, oui.
D'accord. Alors, ça se passe comment ?
Alors, c'est très, 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 très dur. Donc, je me suis, au début, le patch est donc associé au tabac, au nicotine, c'est-à-dire des gommes à mâcher. Quand les gommes à mâcher, plus le patch. Donc, donc ça a été très dur les trois premiers jours. Oui. Donc, je me suis activée comme une malade. J'ai pas arrêté de faire dans ma maison, de faire du ménage, de laver mes rideaux. Ensuite, j'ai promené ma chienne tous les jours, 50 minutes à 7 heures du matin, près du Lez, la rivière de Montpellier. Je me suis mise à faire de la marche active. C'était la résurrection. Et voilà. Et donc, et le samedi, je voulais dire aux auditeurs qu'il existe des aides, du gouvernement et d'assurance maladie. C'est le 3989 ou alors Tabac Info Service sur votre téléphone. Donc, vous rentrez cet appli Tabac Info Service et vous verrez, c'est extraordinaire. Ça m'a remotivée parce que je me suis mise à lire comme une malade tout ce qu'il y a raconté et donc tous les bienfaits. Et
10 jours après, Elisabeth, vous commencez à les sentir ?
Ah, alors là, j'avais mis sur un papier tous les bienfaits, tous les plus, et de l'autre côté, j'avais coupé ma feuille en deux, j'avais mis les négatifs.
Le négatif, c'est pas ça qui manque avec les cigarettes. En plus, vous parlez à quelqu'un qui est plutôt anti-tabac, pour tout vous dire. Donc,
comment ?
Non, vous parlez à quelqu'un qui est plutôt anti-tabac. Je déteste la cigarette.
Ah, vous êtes anti-tabac,
d'accord. Oui, je suis désolée. Après, je ne juge pas les gens qui fument. Hein. Je sais combien c'est difficile d'arrêter de fumer.
Donc, j'ai beaucoup plus de bienfaits.
Voilà, c'est ça. Donc, les négatifs, c'était le coût. Hein, vous avez fait le compte un peu de combien vous avez dépensé, parce que ça, en général, c'est un levier très utile.
Sur l'appli Tabac Info Service, dans l'appli, ils me mettent tous les jours combien je gagne. À la fin du mois, je gagne 200 €, sachant que j'ai une retraite de 687,02 €. Déjà, c'est un tiers de ma retraite. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 687 et moins 200 € de tabac? Donc, c'est pas étonnant qu'après, on ait des problèmes avec la banque postale et les soucis financiers. Les économies financières, marcher plus facilement, retrouver le souffle, odeur dans la maison, promener Olga, c'est ma chienne, au fesquet, 50 minutes par jour, plus d'essoufflement, reprendre le vélo...
Vous sentez déjà que vous êtes moins essoufflé après 10 jours.
Ah oui, l'essoufflement incroyable. Je remarche, je souffle pas. Ma chienne est heureuse. Après, elle est épuisée, elle dort sur le canapé. Et voilà. Et moi, donc je vais voir ma petite fille grandir. Elle est née le 27 décembre. Ma petite fille Athéna. Elle a eu 4 mois samedi dernier. Elle a mangé sa première purée, donc ça aussi, ça m'a motivée.
Oui. Je vois que vous êtes très attachée à la symbolique. Hein. Date anniversaire de votre fille, les 4 mois de votre petite fille et la première purée.
Et les 27 ans de mon fils le 7 mai.
Ah oui.
De Pierre. Il a 27 ans le 27 mai. Donc les 4 mois d'Athéna, 4h20 le 23 avril, etc. Donc pour mes enfants, pour ma fierté, une bonne haleine, des dents plus saines, un plus beau sourire, retrouver le goût, l'odorat, beau teint de santé, plus de tremblements parce que j'avais des tremblements. Ensuite, et truc extraordinaire, c'est que mon fils m'a installé l'application Petit Bambou. C'est la
méditation. L'application méditation, oui.
Extraordinaire. Je revis avec ça. Dès que j'ai, une fois par jour, je me mets là à ma table, sur mon fauteuil, et je mets mes mains sur mes genoux, et je fais ma séance, et je souffle par le nez, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Alors je dis aux auditeurs, c'est possible de le faire, messieurs, dames, c'est possible, c'est très dur les premiers jours, mais ensuite, alors, si vous sentez que vous craquez, vous allez acheter un paquet quand même de tabac. Parce que moi, je fumais du tabac à rouler, je faisais des tubes avec une machine à rouler. Donc, je suis allée acheter un paquet de tabac parce que le mardi 30, j'ai craqué à 6h20, j'étais au tabac à Clapiers, devant la grille en fer. Et j'ai acheté un paquet de tabac à pipe, à rouler, et à tuber plutôt, et pour l'avoir là. Et par contre, j'ai ressorti ma vaporetto, c'est-à-dire ma
cigarette électronique. Oui.
Voilà. Donc j'ai ressorti ça.
Ah, alors donc vous vous autorisez la cigarette électronique?
Ah oui, parce que je suis allée voir ma pneumologue, et ma pneumologue m'a dit... Si vous sentez que vous allez craquer, prenez quand même une nicotine, une gomme à mâcher, un chewing-gum, ou alors
la cigarette électronique.
Sur la électronique.
Oui, parce qu'en fait c'est le geste aussi qu'il reste à désensibiliser.
Voilà,
une fois qu'on a pris l'habitude, enfin si je puis dire, de moins fumer ou de cesser de fumer, le geste est un rituel. Donc souvent on va aller désensibiliser le geste, par exemple en EMDR, en seconde séance, par exemple. Donc là vous prenez la cigarette électronique, vous avez encore le geste finalement. Sans avoir les effets nocifs du tabac. Est-ce que vous aviez déjà essayé auparavant d'arrêter de fumer, Elisabeth, ou c'est la première vraie tentative?
Ah non, quand j'étais jeune, que je faisais le maître nageur sauveteur, j'avais complètement arrêté, là, et aucun problème.
Combien de temps vous aviez arrêté?
Plus d'un an.
Alors pourquoi vous avez repris, vous le savez?
J'ai repris parce que j'avais des fréquentations fumeuses qui n'étaient pas trop bonnes pour moi.
Alors là, par exemple, si les fréquentations fumeuses se représentent, comment vous allez faire?
Elles vont se représenter, mais... Non, mais moi, comme je suis une solitaire, je suis une ouf solitaire, je suis dans mon coin, je suis avec ma chienne, j'habite dans une rue où il n'y a que des maisons, des petites villas HLM sociales, et maintenant, il n'y en a plus qu'une qui fume. Donc, tout le monde a arrêté, parce qu'ils ont tous eu des problèmes de manque d'oxygène.
Ah.
Et ils sont
rattrapés par la santé, oui.
Voilà, donc c'est ça qui m'a en plus motivée. Il y en a un, il a un tube d'oxygène à domicile. Et le 17 février, il a arrêté, il a été hospitalisé pendant 15 jours. Ça m'a fait tilt. Et ça a été l'une des motivations aussi pour l'arrêt. Et il n'y en a qu'une qui a l'oxygène, elle est presque à deux doigts de mourir et elle continue à fumer. Et elle vient me voir, et avant, on fumait, et je lui dis, mais attends, arrête, tu dois t'arrêter, t'es à trois pas de la tombe. Ah non, je continue. Elle continuait, elle a l'oxygène à la maison, à Nouvelle-Neuve, sa pneumologue, je sais pas pourquoi il... Bon, elle est libre, hein, c'est la liberté.
Et c'est surtout la difficulté aussi de faire preuve de volonté pour arrêter. Hein. C'est aussi ça. Hein. C'est pas qu'elle ne veut pas, peut-être. C'est qu'elle n'arrive pas.
Elle n'arrive pas, non. Mais elle est pas. Elle avait perdu son époux qui était sculpteur. Elle a perdu son époux il y a une dizaine d'années. Elle s'en remet pas et tout. Donc, elle ne peut pas s'arrêter.
Faire le deuil et en même temps arrêter de fumer, c'est beaucoup d'énergie. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il y a un temps pour tout. Sa santé est vraiment en jeu. Oui. Elle a des enfants.
Oui, elle a des enfants dont un handicapé, le pauvre. Donc, elle a des enfants, mais sa fille est partie vivre dans l'Aveyron. Et donc, elle va aller vivre dans l'Aveyron. Et là-bas, il y a plus d'air. Et peut-être que là-bas, elle s'arrêtera et elle sera saufrée. Elle sera près de la nature. Et peut-être que ça lui ça la calmera.
Pourquoi vous aviez commencé à fumer, Elisabeth, il y a 40 ans ? Vous en avez 62.
Ans, ouais.
C'est-à-dire à 22 ans. Pourquoi vous avez commencé à fumer ?
Non, à 19 ans, parce que j'étais bête, j'ai fréquenté faire comme les autres, alors que j'en avais même pas besoin, parce que j'étais une grande sportive, moi, très très grande sportive, très grande handballeuse. Mon père était champion d'Afrique du Nord du 400 mètres haies et du 110 mètres haies. Il m'entraînait. Moi, j'étais championne de hand et de lancer du poids et du pentathlon, 5 épreuves combinées. Et j'avais aucune. À l'époque, quand j'étais sportive, les fumeurs me dégoûtaient. Et après, je me suis mise au tabac. La jeunesse, on fait des conneries.
Donc, vous vouliez vous conformer au regard des autres, c'est ça ?
Ah ouais, c'est ça, c'est dommage.
Et quand vous êtes tombée enceinte, vous avez pas arrêté de fumer ?
J'ai réduit un petit paquet de 5. Le gynécologue m'avait autorisé 5 clopes par jour. Ouais. Parce qu'à l'époque, l'année où j'étais enceinte, en 91, il y avait des paquets de 5 clopes. Donc, je suis tombée enceinte quand Gainsbourg est mort.
Ah, c'était un déclencheur. C'était la grossesse, c'était pas...
Et ma fille est née en décembre 91.
Et après, vous avez repris plus belle la cigarette. Vous avez maintenu le cap un petit peu quand même.
Non, après, j'ai repris pareil. Mais je m'occupe. Le problème, c'est quand je m'occupe, je n'y pense pas et j'en ai pas envie. Et après, c'est quand je fais plus rien et quand j'écris, je me mets à fumer.
Et oui. En fait, c'est très important quand on veut arrêter de fumer d'identifier les facteurs qui déclenchent le comportement qui est problématique, en fait. Hein. C'est ça, surtout. C'est vraiment identifier les facteurs qui déclenchent ce comportement et ensuite, c'est le dédramatiser. Et ensuite, c'est trouver la méthode pour le résoudre, évidemment, ce problème.
Eh bien, c'est faire quelque chose, boire un verre d'eau, sortir la chienne, sortir Olga, marcher, faire un tour dans la rue, faire 10 respirations, faire...
Écoutez Petit Bambou.
Comment ?
Écoutez Petit Bambou. Écoutez la Libre Antenne. Écoutez la Libre Antenne sur europe1.fr.
Ouais, tout à fait. Et je conseille aux auditeurs d'écouter Petit Bambou et de mettre l'appli Petit Bambou sur leur téléphone. Bon, on va faire de la pub toutes les deux, hein, Valérie, pour Petit Bambou.
Il y en a d'autres, des applis pour la méditation, il y en a plein. Oui.
C'est génial.
Il y a surtout tous les formats.
C'est mon fils qui me l'a installé, parce que mon fils est grand sportif comme moi.
Vous êtes toujours sportif aujourd'hui, Elisabeth ?
J'ai repris en septembre 2023, j'ai repris la gym douce le vendredi matin. Et on est une équipe de 10 avec une coach.
C'est bien. C'est important, on ne le répétera jamais assez. Voilà, on ne le répétera jamais assez, pas de sédentarité.
Ah voilà, il ne faut pas rester assis.
Voilà,
c'est
parce
pas
que
bon.
Sinon vous raccourcissez votre vie, votre espérance de vie, hein, c'est important.
Ouais, et l'espérance de vie, au bout de 10 ans sans tabac, l'espérance de vie est ramenée à la normale d'un non-fumeur.
Voilà, c'est ça.
Et au bout de une semaine, j'ai retrouvé l'odeur et le goût. Au bout de 2 semaines, mon sommeil va se rétablir correctement. Et au bout d'un mois, déjà, les cils vibratoires des poumons se redressent.
Vous dormez déjà mieux ou pas là ?
Non, je dors mal.
Toujours pas, il faut encore
attendre un petit peu. Donc j'ai appelé la tabacologue du 3989 samedi dernier. Elle m'a conseillé de mettre un demi-patch de plus dans la journée et de l'enlever la nuit, parce qu'en plus je faisais des cauchemars le peu que je dormais.
Et c'était lié à l'arrêt du tabac ?
Et oui, 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 c'était lié à l'arrêt du tabac. C'était le patch qui...
Ah, c'est un des effets secondaires du patch.
C'était de boire beaucoup d'eau et beaucoup de café, parce que je m'étais, comme j'avais pas de nicotine dans le sang, je m'étais mise à prendre plein de caféine. Et donc, toute la nuit, j'avais envie d'uriner. Donc, je me réveillais, à chaque fois que je voulais une clope, je prenais un verre d'eau. Donc, j'avais envie d'uriner toute la nuit. Donc, c'est pour ça que j'ai eu des troubles du sommeil au début. Donc, cette tabacologue, le 27 avril, m'a dit, mettez un demi-page de plus le jour et la nuit, vous l'enlevez.
C'est bien parce que vous faites très, très bien accompagner hein, dans cette décision que vous avez prise, dans cette révolution.
Elle me rappelle lundi à 9h, la tabacologue.
Ouais, c'est vraiment 39,89, hein, c'est ça.
Oui, 39,89, la tabacologue, hein, ils vont vous mettre en relation, vous ouvrez un dossier, ils vous mettent en relation avec un tabacologue, vous rappelle, et ensuite vous pouvez rentrer l'appli Tabac Info Service, là tout est expliqué, tous les bienfaits, toute l'évolution, toutes les économies, si vous craquez, des petites vidéos d'accompagnement pour vous soutenir, etc.
Et bien sûr, c'est gratuit.
Ah oui,
c'est bien de le redire.
Ah oui, oui, c'est la sécurité sociale, c'est la CPAM qui a mis ça en place, c'est le gouvernement. Hein.
Vous aviez jamais téléchargé cette appli avant? Là, c'est parce qu'il y a eu toutes ces dates anniversaires qui, finalement, ont fait en sorte que le déclic s'est
en
fait.
Plus,
hein.
Le 23, dans 4 mois, ma belle-mère a 89 ans.
Oui, donc ça fait...
Le 23, c'est...
Encore,
le 23
encore,
août, elle a 89 ans.
Voilà, encore une date anniversaire.
Voilà.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Elisabeth, et je crois qu'on vous a déjà eu sur l'antenne d'ailleurs, que vous écrivez des poèmes, hein, c'est ça, hein?
Oui.
Alors,
et donc,
l'arrêt du tabac vous a-t-il inspiré?
L'arrêt du tabac m'avait motivée pour faire une petite poésie.
D'accord. Parce que juste avant que vous nous le lisiez, parce qu'on a encore un tout petit peu de temps, moi je voudrais quand même, parce qu'on parle d'écriture, il y a aussi une technique qui est pas mal, un outil en tout cas qu'on peut tenter quand on veut arrêter de fumer, qui s'appelle la lettre de rupture, qui consiste à mettre par écrit sa décision d'arrêter de fumer en s'adressant directement au tabac. Et par exemple, dire, avec du recul et beaucoup de volonté, tu es à l'origine de nombreuses de mes souffrances. Exemple, hein, je prends un exemple, hein, bien sûr, moi je ne fume pas. Je ne veux plus de toi, plus jamais je ne veux de toi. Donc, il est temps de nous abandonner et de te laisser partir.
Très bien.
Voilà, par exemple, voilà, je le dis pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'essayer.
Qui c'est qui a écrit cette dure?
Personne ne l'a écrit, là je l'ai improvisé. Mais en tout cas, c'est un outil thérapeutique d'écrire la lettre de rupture.
D'accord,
c'est comme on dit pas. Voilà, c'est comme on dit pas. Je dois, il faut. On remplace la phrase comme je dois arrêter, sinon je vais tomber malade, qui génère donc de l'anxiété hein, et qui augmente souvent la consommation du tabac parce que l'inconscient il aime pas du tout ces phrases-là. On dit plutôt je suis capable de lutter contre la cigarette et contre mon addiction et je vais tout faire sans me mettre la pression pour le faire. Vous voyez, les mots ont du sens et. Faire la lettre de rupture, changer son vocabulaire, ça peut aider aussi. Alors, je vous écoute pour vos mots à vous, Elisabeth, pour terminer cette émission.
Alors, voilà. J'encourage les auditeurs à le faire. Courage, courage à vous. Voilà le poème. À l'ombre de ma bougie ambrée se détachent mes dernières fumées bleuâtres. Ce sillon qui s'échappe de mon cœur et laisse ma gorge en nausée, tu abondes sur ma lèvre inférieure. Tu m'inondes d'un parfum repoussant. Je fume ces dernières camelles, j'entends les oiseaux qui m'appellent vers de nouveaux horizons, fumée bleue, prison carrée, dépendance. Mais tu m'as tenu, j'avais besoin de toi. Compagne de mes nuits blanches, maîtresse Kamel Mille, mais je t'ai aimé dans tous mes moments. Tu as assisté à ce lent naufrage et à cette lente remontée vers un oxygène pur, frais, espionne. Tu m'aimais, je t'aimais. Compagne de chaque matin, de chaque nuit, tu es trop rentrée dans ma vie privée. Aujourd'hui, je te jette.
Eh ben, bravo, Elisabeth. Bravo, parce que vous ne vous jugez pas d'avoir été une grande fumeuse. Vous rendez hommage à ce que vous apportez la cigarette et en même temps, eh ben, vous en avez fini avec elle. Donc un grand bravo et un grand merci aussi de nous avoir appelé ce soir, d'avoir composé le 01 80 20 39 21. Merci beaucoup à vous.
Merci Valérie pour votre écoute.
Merci beaucoup.
Et merci de votre oreille et de vos conseils et de vos...
Avec
je vais
plaisir.
Écrire ma lettre de rupture.
Et ben voilà. Et à bientôt Elisabeth. À bientôt.
À bientôt. Merci Valérie.
Au revoir.
Et merci à toute l'équipe de la Libre Antenne, Juliette et Nicolas.
Merci
et le
beaucoup.
Réalisateur.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bonsoir à vous. Merci.
Elisabeth nous lisait juste un poème, et là c'est Calogero qui nous chante juste une chanson ce soir dans la libre antenne d'Europe 1. N'oubliez pas d'ailleurs que le 19 mai prochain, nous faisons une nouvelle libre antenne spéciale décryptage des émotions, tristesse, honte, colère entre autres, et puis du langage un peu psy comme le syndrome de l'imposteur, la blessure du rejet. Qu'est-ce que ces concepts recouvrent vraiment? Eh bien vous le saurez en écoutant la libre antenne notamment du 19 mai prochain, et je serai accompagnée d'une thérapeute très forte en la matière. Nous attendons donc vos appels évidemment au 01 80 20 39 21 dès maintenant si vous voulez participer à cette émission. Pour ce soir, c'est fini, c'est la fin de la libre antenne de ce vendredi. On se retrouve demain aux alentours de 22h15 jusqu'à 1h.